poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et notre site internet radioalliance-plus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Dans cette émission, nous aurons d'abord quelques informations locales, peu nombreuses en raison de la journée de l'Ascension. Deux questions occuperont la suite de l'émission. D'abord, le débat sur la fin de vie et les positions du protestantisme en rapport avec cette loi. Puis le prochain synode de l'Église protestante unie de France qui se tiendra à la fin de la semaine au Lazaret à Sète. Ce synode poursuivra sa réflexion sur les ministères qu'il faudrait peut-être mettre en place. Information locale. À Nîmes, la maison du protestantisme est située au centre-ville, 3 rue Claude Brousson, tout près de la Maison Carrée. Numéro de téléphone 04 66 67 97 40. La maison du protestantisme vous accueille tous les matins, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h, l'après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à midi. En raison de l'Ascension, il n'y aura pas de repas traditionnel du jeudi le 29 mai. Ces repas traditionnels, ouverts à toutes et à tous, reprendront le jeudi 5 juin. Association protestante d'assistance. Les responsables de l'Association protestante d'assistance, APA, rappelle qu'il cherche activement des bénévoles pour septembre 2025. Une réunion d'accueil est prévue pour le 18 septembre. Pour s'inscrire à cette réunion, n'hésitez pas à envoyer un courriel à apa@apa30.fr. Fin de vie. Fin de vie, le plaidoyer des protestants. Deux propositions de loi sur la fin de vie, l'une portant sur l'aide à mourir et l'autre sur les soins palliatifs, sont en débat au Parlement depuis le 13 mai. Comme le reste de la société, les protestants sont divisés à propos de la première. La Conférence des responsables de culte en France s'est récemment exprimée à ce propos. Voici ce communiqué. Les dangers d'une rupture anthropologique. La Conférence des responsables de culte en France, catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans et bouddhistes, alerte solennellement sur les graves dérives qu'implique la proposition de loi introduisant dans la législation française un droit à l'aide à mourir. Derrière une apparente volonté de compassion et d'encadrement, ce texte opère un basculement radical. Il introduit légalement la possibilité d'administrer la mort par suicide assisté ou euthanasie, en bouleversant profondément les fondements de l'éthique médicale et sociale. Premièrement, un langage qui travestit la réalité. La terminologie choisie, aide à mourir, masque la nature véritable de l'acte d'administration volontaire d'un produit létal. Ce vocabulaire euphémisant, que la haute autorité de santé elle-même qualifie de source de confusion éthique, dénature les mots pour désamorcer la gravité morale de l'acte. Qualifier une mort administrée de « naturelle » est une contre-vérité qui vise à anesthésier les consciences et affaiblir le débat public. Une rupture avec l'essence du soin. L'intégration de l'aide à mourir dans le code de la santé publique constitue un dévoiement de la médecine. Elle heurte frontalement le serment d'Hippocrate et le principe fondamental du soin, qui vise à soulager sans jamais tuer. De nombreux soignants expriment leur désarroi. Être chargé de provoquer la mort d'un patient constitue une transgression radicale de leur mission et risque d'instaurer une culture de la mort, là où la médecine s'est toujours construite comme un service de soins à la vie. Des garanties éthiques et procédurales gravement insuffisantes. Le texte actuel permet à un seul médecin d'autoriser un acte létal sans procédure collégiale ni évaluation psychiatrique. La Haute Autorité de Santé, dans ses avis successifs, insiste pourtant sur la nécessité absolue d'un discernement partagé, pluridisciplinaire, long et encadré. Le délai d'instruction de 15 jours suivi, le cas échéant d'un délai de réflexion de seulement 48 heures, voire moins, va à l'encontre de tous les standards internationaux. Cette précipitation est indigne d'une décision irréversible et de la gravité de l'enjeu. Quatrièmement, une menace directe pour les plus vulnérables. L'instauration de ce droit risque d'exercer une pression sourde mais réelle sur les personnes âgées, malades ou en situation de handicap. La seule existence d'une telle option peut induire chez des patients une culpabilité toxique, celle d'être un fardeau. Dans les pays où l'euthanasie a été légalisée, les demandes ne cessent d'augmenter et on observe une baisse inquiétante de l'investissement dans les soins palliatifs. Ainsi, la promesse d'un accompagnement digne tend à s'effacer derrière une option terminale présentée comme solution. Cinquièmement, une atteinte à l'équilibre entre autonomie et solidarité. La loi proposée consacre l'autonomie individuelle au détriment des liens familiaux et sociaux. Elle érige l'autodétermination individuelle en absolu, en écartant toute information ou consultation de proches, de l'équipe soignante et tout accompagnement spirituel ou psychologique. Ce faisant, elle ne tient aucun compte de la dimension relationnelle et interdépendante de l'existence humaine. Ce choix solitaire risque fort d'occasionner des traumatismes et des blessures durables, notamment dans le cas d'une découverte a posteriori du décès d'un proche aidé au suicide ou euthanasié. Un appel à la responsabilité politique et humaine. Devant cette possibilité, Rupture anthropologique, la CRCF, la Conférence des responsables de culte en France, appelle les parlementaires à faire preuve de discernement. Légaliser la mort administrée ne sera pas un progrès, mais une régression éthique, sociale et médicale. Il faut choisir l'investissement dans les soins palliatifs, la formation à l'écoute, l'accompagnement global des personnes jusqu'à la fin de leur vie. Ce choix est celui de l'humanité contre l'abandon, de la relation contre la solitude, du soin contre la résignation. Ce communiqué est signé par le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, par Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, par Mgr Dimitrios, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, par Mgr Haïm Korsia, grand rabbin de France, Mgr Mohamed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France, Monsieur Anthony Boussmar, président de l'Union bouddhiste de France, et Maître Shems Eddin Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Dans le courrier des lecteurs de réforme du dernier numéro du 22 mai dernier, cette position de la Fédération protestante est critiquée. C'est ainsi que l'un des lecteurs dit « J'ai lu avec consternation dans le dernier numéro de réforme que la Fédération protestante de France signait avec les cultes catholiques, orthodoxes, juifs, musulmans et bouddhistes un document qui exprimait clairement le caractère inopportun et contestable d'une évolution législative des modalités d'accompagnement de la fin de vie concernant la proposition de loi sur l'aide à mourir. Cette opposition fait fi, à mon avis, de la liberté de choix du protestant dans ses décisions sur le plan éthique et théologique. Cette liberté de choix a été développée par plusieurs protestants de tendances différentes dans Réforme et l'œil de Réforme ces dernières semaines. Pourquoi les responsables de la Fédération protestante de France, incluant des gens de sensibilités diverses, font-ils chorus avec les positions tranchées de refus total de la proposition de loi sur l'aide à mourir, énoncée dès le départ par les autorités catholiques, musulmanes, juives et bouddhistes? Je trouve qu'il y a là un manque de respect des consciences des membres de leurs églises et un manque de cohérence avec la culture du débat constitutive du protestantisme. Cette position est signée par Jacques Musset. Église protestante unie de France. Préparation du synode national 2025. Le prochain synode national se tiendra du 29 mai au 1er juin 2025 au centre du Lazaret à Sète. Le centre du Lazaret à Sète accueillera la 13e session du synode national de l'Église protestante unie de France. Outre la présentation du rapport du Conseil national et des services de l'Union, cette session fera un point sur l'avancement de la mise en œuvre des décisions du Synode 2024 à Toulon sur le thème synodal « Mission de l'Église et ministère ». L'Assemblée synodale se compose de trois groupes, les délégués à voix délibérative représentant les 9 régions de France, les délégués à voix consultative représentant les organismes et partenaires de l'Église protestante unie de France, et les invités, représentants des églises sœurs en Europe et les membres rattachés aux différents services. Cette assemblée renouvellera aussi les instances nationales, Conseil national, coordination, évangélisation et formation, commission des ministères, commission des affaires générales. L'occasion aussi d'exprimer sa reconnaissance à la pasteur Emmanuel Zebolt, qui terminera la présidence du Conseil national, et au président de la Commission des ministères, le pasteur Vincent Nem-Perron. L'aumônerie sera conduite par le pasteur Pierre-Olivier Dolino, secrétaire général de la Fédération de l'entraide protestante, et Valérie Rodriguez, secrétaire général de la Mission populaire évangélique de France. Le culte final, dimanche 1er juin à 11h, accueillera les 13 nouveaux pasteurs reconnus et ordonnés dans leur ministère durant l'année. Vers une nouvelle diversification des ministères et le développement d'un ministère de diacres, cette session du Synode national 2025 finalisera le travail initié en 2022 par le Conseil national autour du thème « Mission de l'Église et ministère ». Les enjeux sont de discerner et autoriser de nouveaux ministères pour assurer au mieux les missions de l'Église protestante et être des témoins vivants de l'Évangile dans une société de plus en plus sécularisée. Un projet de décision sera présenté concernant le développement du ministère de diacre et la mise en œuvre d'une refonte de la formation initiale et continue des pasteurs. Ainsi, 3 axes pourraient être déployés. Premièrement, réformer l'Église en vue de sa mission pour gagner en souplesse dans les formations proposées et la gouvernance. Deuxièmement, favoriser une pédagogie pour soutenir les églises locales dans le discernement et la mise en place de nouveaux ministères. Troisièmement, développer des outils d'intelligence collective et de coopération pour faciliter toutes les initiatives. Le discernement de ces ministères et le déploiement de nouveaux types de formation et d'accompagnement sont le premier pas vers un changement de culture dans l'Église pour être témoin de l'Évangile dans la société. L'annonce de ce prochain synode donne l'occasion à l'hebdomadaire Réforme, dans son numéro du 22 mai, le numéro 4091, lui donne l'occasion de revenir sur le synode de 2015, il y a 10 ans. Enfin, enfant de Dieu comme les autres. Le 17 mai 2015, le synode de Sète de l'Église protestante unie de France a voté la possibilité d'élargir la bénédiction religieuse aux couples mariés, d'hommes ou de femmes, sans qu'elle s'impose à une paroisse ou à un pasteur. Les premières années, l'Église protestante unie de France a recensé une dizaine de cérémonies par an, soit 1% des unions. Trois couples de croyants ayant vécu ce moment de bonheur et de partage témoignent dans ce numéro 4091 de Réforme. Et voici ce que dit le directeur Antoine Nuis. 10 ans après, lors de son synode national de 2015, l'Église protestante unie de France votait la possibilité de bénir les couples de même sexe. La demande était quantitativement réduite, mais symboliquement forte. 10 ans après, quel bilan tirer de cette décision ? En premier lieu, des couples homosexuels se sont sentis accueillis et reconnus de leur singularité au sein de l'Église. Certes, la décision a jeté le trouble chez certaines églises évangéliques de la Fédération protestante, mais cette dernière n'a pas éclaté comme on a pu le craindre, et cela lui a donné l'occasion de préciser son projet de vie commune. Enfin, la décision a permis à la branche confessante de l'Église protestante unie de France de se structurer autour du mouvement des attestants. Le synode de Sète 2015 aura marqué le monde protestant. Outre la possibilité de bénir des couples de même sexe, disais-je, une autre conséquence du vote de Sète en 2015 a été la structuration d'un courant déjà existant dans l'Église réformée de France, puis dans l'Église protestante unie, celui des attestants. Le courant confessant très attaché à la parole, à une expression classique de la foi, et a présidé à la création de l'Église réformée de France, déclare René Lonegro, président des attestants depuis 2019. Le synode de Sète a agi comme un catalyseur pour ce courant qui se considérait comme marginalisé dans les institutions et prises de position de l'Église. Ce que nous défendions n'était pas audible, il était temps de nous faire entendre. Sur le vote du synode, il explique « Nous considérons que rien dans les textes bibliques ne permet de justifier ce type de bénédiction. Les opposants à ce vote se sont ainsi rassemblés car ils ne se sentaient pas écoutés, dénonçant au passage un dysfonctionnement dans l'institution qui n'a pas été corrigé depuis 2015. Le système presbytéro-synodal favorise l'expression du compromis et non celle de toutes les tendances théologiques de notre Église. » Oui, assure Laurent Schlumberger, alors président du Conseil de l'Église protestante unie de France de 2013 à 2017, le système de gouvernement favorise le compromis, mais comme les électeurs du synode sont des représentants des églises locales, ils représentent bien l'Église, sans compter que le sujet a été longuement discuté dans les synodes régionaux avant le synode national. Le texte voté paragraphe par paragraphe à une très large majorité montre bien que les délégués présents ont eu le souci de voter sur ce que l'Église doit dire aujourd'hui et non sur des convictions personnelles. Oui, la décision du synode de Sète a été très mal vécue par d'autres églises, confirme Valérie Duval-Poujol, théologienne baptiste, mais avec du temps, des discussions, nous avons réussi à surmonter cette difficulté. Ensemble, nous avons réécrit la charte de la Fédération et l'actuelle vice-présidente de la Fédération protestante de France d'ajouter « Il reste des traces de ces blessures, mais le fait que l'Assemblée générale de la Fédération ait eu lieu à Sète en janvier 2025 montre bien qu'elles sont moins douloureuses. » Ce sont des extraits d'un article de Laure Salmon dans ce dernier numéro de Réforme. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusée le mardi à 8h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir.